Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, vous êtes avec les Neveux de René, Chemin de Pensée. Nous continuons avec le cycle consacré à Camus, avec une analyse, une discussion autour de son livre moins connu qui s'appelle « La chute ». Alors, comme de coutume, nous allons donner la parole à Nicolas Lemoine pour le résumé. Vous êtes avec Sylvain Contasso-Vivier, Anne Bonneau et moi-même Nazim Fattès. Mais avant de commencer le résumé, une petite annonce pour les auditeurs de Nancy qui écouteraient ce message le premier jour de diffusion de cette émission. Donc le jeudi 6 avril à 18h, vous êtes conviés à un débat sur le thème de l'intelligence artificielle. Alors, le thème de la rencontre s'appelle « Les robots ont-ils le sens de l'humour ?» Et ce débat est organisé par l'association ECOS, l'association des étudiants de sciences cognitives de Nancy. Et ça se passe au bar L'Académie, place Carnot, juste à côté de la fac de droit, à 18h, voilà. Et puis l'entrée est libre et le but est de discuter de la question de l'intelligence autour d'un verre, voilà. Alors, nous donnons la parole à Nicolas Lemoine pour le résumé de l'épisode précédent.
Alors nous avons continué donc d'étudier la chute, le roman La Chute d'Albert Camus. Ce roman où un homme mystérieux aborde un touriste français. Il se présente comme ancien avocat et puis commence à lui raconter sa vie de façon subjugante. Et donc nous avions commencé à aborder la semaine dernière la question de l'homme sans Dieu, une question pascalienne, s'il en est. Et nous avions d'ailleurs, à l'aide d'un entretien avec Guy Basset, fait le lien très fort qui existe entre Albert Camus et Pascal. Alors cette question, donc, nous l'avions abordée de façon... nous avions commencé à l'aborder, donc, en se posant la question de qu'est-ce que ça change d'avoir un dieu ou pas. Alors, on va peut-être la réaborder, mais sous un autre angle aujourd'hui, en se posant la question de savoir comment est-ce qu'on peut améliorer son âme, ou qu'est-ce qui empêche d'améliorer son âme, quels peuvent être les obstacles, quand on vit dans un monde sans Dieu. Alors, je voudrais redonner la parole à Anne, qui nous avait de façon très convaincante donné tout ce en quoi elle croyait, puisqu'on peut croire sans avoir de Dieu, et notamment en la capacité de l'homme à agir bien et à améliorer son âme, en prenant comme exemple Albert Camus lui-même.
Oui, il me semble que c'était un petit peu le message d'Albert Camus. Hein, c'est ce qu'il a dit donc dans son discours hein, pour lors de la remise du prix Nobel, que finalement ce qu'il fallait faire, c'était aider les hommes, c'était donner la parole à ceux qui n'en avaient pas, soit parce qu'ils étaient privés de liberté, soit parce que ils ne pouvaient pas parler. Et donc peut-être que on peut ne pas avoir de Dieu, ne pas croire en Dieu, et néanmoins être tourné vers l'homme. Et il y a un passage de, je crois que c'est de l'évangile selon saint Matthieu, qui est très beau. C'est dans lequel Jésus dit, mets les gens à sa droite, tu sais, les gens qui sont bien. Mmh. Et il leur dit, merci à toi parce que voilà, j'étais en prison et puis t'es venu me voir, j'avais faim et tu m'as donné à manger, etc. Et la personne lui répond évidemment, ben non. Je ne t'ai pas vu, Seigneur. Dis-moi quand est-ce que je t'ai vu en prison. Dis-moi quand est-ce que je t'ai donné à manger. Mmh. Et Jésus lui répond cette phrase que je trouve magnifique. Il lui a dit, mais chaque chose que tu as fait au plus petit de mes frères, tu l'as fait à moi. Mmh. Et je pense qu'on pourrait aussi, par quelque part, être dans cette optique que les gens qui font quelque chose pour les autres, quelque part, ils le font aussi pour nous.
Pour nous. Pour nous tous. Alors pour l'humanité. Voilà. D'accord. plus pour le Christ, mais pour l'humanité.
Voilà. Pourquoi pas.
D'accord. Alors. Maintenant, si c'était aussi simple, peut-être Camus ne se serait-il pas ingénié à écrire ce roman. Alors, finalement, est-ce que l'ambition que tu proposes, est-ce que ce n'est pas ce que vivait Jean-Baptiste Clamence à son époque glorieuse à Paris, quand il était avocat pénaliste au barreau de Paris, et qui défendait les ces criminels en qui il arrivait à voir le plus souvent des victimes de la société, d'une mauvaise expérience, etc. Et que sous son art, c'était justement de les présenter en victimes pour qu'ils le prissent le moins possible.
Oui, donc justement, c'est ça le piège, c'est que Jean-Baptiste Clamence dit qu'il fait du bien aux autres. Il, du reste, il le provoque. Il y a des choses très amusantes hein, dans lesquelles il dit qu'il essaye de provoquer des situations pour pouvoir faire du bien aux autres. Voilà, comme d'aller rendre service aux aveugles, comme d'aller attendre quand il y a des grèves de bus. Vous savez, la grève de bus, c'est très rigolo. Quand il y a une grève de bus, il va là où les gens attendent le bus pour pouvoir leur proposer de rentrer dans sa voiture. Donc, quelque part, ce qu'on sent, c'est que ce que fait Jean-Baptiste Clamence, c'est quelque chose qui est intéressé, qu'il le fait quelque part plus pour lui que pour les autres. Et d'ailleurs, il y aura donc, je ne sais pas si on doit en parler maintenant, cette fameuse scène dans laquelle il peut vraiment faire quelque chose qui lui coûte et qui ne le fait pas.
Oui. Mais voilà. Là, pour le coup, ça pose la question justement de l'origine des actes. Hein. Quand on fait un acte, finalement, qu'est-ce qu'on cherche dans tout acte que l'on fait?
Et ça, c'était déjà la question qui était posée dans le Gorgias, hein, dont on avait discuté, puisque chez Platon, par exemple, l'homme vise toujours le bien. Il vise le bien, même quand il fait le mal, c'est qu'il n'est pas éduqué à faire le bien. D'où cette notion, tout à l'heure vous avez parlé de soin de l'âme, hein, améliorer son âme, c'est la notion même du platonisme, hein, c'est-à-dire le platonisme vise à éduquer l'homme pour qu'il améliore son âme.
Oui, mais en revanche, s'il n'y arrive pas, s'il est quand même trop rebelle, il va être jugé. Et il va être jugé par qui? Il va être jugé par les dieux. Donc c'est là où on revient peut-être au problème, non?
Alors, je voudrais nuancer. Tu as raison, Anne, de dire que, par exemple, à la fin du Gorgias, il y a le mythe, effectivement, où l'âme est jugée. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce mythe intervient après l'impossibilité.
Oui, après, c'est ce que je dis, après l'impossibilité, pour ceux vraiment qui sont trop rebelles. C'est ce que je dis, oui.
Oui, mais cette pensée-là, elle est profonde. Elle veut dire que finalement, si tu veux convaincre les êtres humains de dépasser leur passion par le moyen de la raison, tu risques de te heurter à un mur.
Oui, voilà. Certain, oui.
Voilà. Je ne sais même pas si c'est certain ou si c'est pas tous.
Si c'est pas tous, oula.
Voilà, à voir.
Oula.
Alors, mais ça dit, il ne faut pas être... Parce que, évidemment, le récit que fait Clamence, c'est le Clamence d'Amsterdam qui parle du Clamence de Paris. Et donc, il le fait avec un certain point de vue, et le point de vue, c'est de se flageller de plus en plus fort au fur et à mesure qu'on avance dans le roman. Mais sinon, il dit quand même que quand il dit que il plaidait sans se faire payer pour les justiciables qui n'avaient pas assez d'argent, que même il lui est arrivé d'aider la femme d'un condamné pour pouvoir vivre en l'absence de son mari. Et même prendre quelques risques. Il dit qu'il a vraiment pris quelques risques dans sa vie. Alors finalement, est-ce que c'est pas quelqu'un qu'on aimerait avoir pour voisin, qu'on aimerait avoir dans son entourage?
Non.
Alors
non,
pourquoi pas que... Qu'est-ce qui va pas?
Moi, je serais très ravi de l'avoir dans mon entourage. Quelqu'un qui rend service, je lui demanderais de plus.
Il y a quelque chose qui cloche, mais c'est pas si évident que ça de trouver quoi. Alors je vous propose, justement, parce qu'en fait, ce roman est Camus comme Nietzsche pose en s'opposant au christianisme.
Quelque part, ce qui est intéressant dans la démarche de Clamence, c'est qu'il est très conscient de ça, justement. Il est très conscient que tout ce qu'il fait, c'est pour lui-même, en fait.
Enfin, il est
c'est pas pour
conscient.
Les autres.
Il est devenu conscient.
Mais encore une fois, est-ce que quand on fait quelque chose, de toute façon, hein, au dernier moment, enfin au fond du fond, on le fait pas pour nous-mêmes tout le temps?
Ah, ça, c'est une question.
C'est ça le problème qui est posé là, en fait.
Quand on ne le fait que pour pouvoir se regarder dans la glace, vu de l'extérieur, c'est presque un acte gratuit. Il n'y a que ça qui demande comme récompense, finalement. Hein, avoir une bonne estime de soi-même. Où est le mal?
Oui, mais voilà, justement. Donc,
quelque part, il exploite les gens.
Ce qui est intéressant, c'est...
ça, on ne l'a pas dit.
Finalement, il est en train de disséquer un peu le comportement humain sur les actes que l'on fait et l'origine des actes.
Oui, ça pose la question de... Voilà, est-ce qu'il y a des actes gratuits, quoi?
C'est ça. Et la question aussi, c'est s'il n'y a rien, justement, en dehors de l'homme, si c'est pour l'amour de l'humanité, on peut aussi te rironner. On peut aussi dire que c'est un peu ce que disent aussi les personnages de Calliclès dans le Gorgias et ainsi de suite. C'est-à-dire, l'humanité, bon, bah, c'est des contes de fées aussi, cet amour de l'humanité. Non, ce qu'il faut vraiment, c'est avoir la puissance. C'est peut-être ça qu'il faut avoir. C'est peut-être aussi dans ce sens-là que Nietzsche retourne les valeurs, tu vois. C'est nous faire prendre conscience de ça. Et c'est ça l'histoire du nihilisme, à mon avis. C'est de se dire, bon, si on ne croit pas à l'humanité, on a le droit de ne pas croire à l'humanité aussi. Pourquoi on croirait
d'ailleurs, comme on avait peut-être évoqué ce problème-là, mais il est souvent plus difficile de croire à l'humanité qu'en Dieu. Hein.
Mais oui, si on dit que même quelqu'un qui agit sans réclamer d'autres récompenses qu'une bonne estime de soi, si on dit qu'il est mauvais, alors personne n'est bon. Et comment croire à l'humanité?
Exactement.
Si
oui,
on commence par dire que ceux qui font
du bien... Ça pose le problème de l'acte gratuit. Quel est le sens d'un acte gratuit? Est-ce que ça aurait un sens? Parce que finalement, c'est quoi? C'est un acte gratuit, ça voudrait dire que c'est un acte que tu fais au hasard.
Non, là, j'irai pas, parce que là, tu discutes sur le mot de gratuit.
Oui, mais justement.
Il va jusqu'au bout du raisonnement.
Il faut aller jusqu'au bout.
On n'agit pas pour rien. On agit au moins pour se applaudir quelque part.
En tout cas, par rapport à des choses qui nous plaisent. Voilà. Pas forcément pour se faire applaudir, mais au moins par rapport à des choses qui nous plaisent. Mm-hmm. Donc, c'est ça qui est important. C'est, tu vois, l'origine des actes, en fait.
Mm-hmm. Maintenant, il y a aussi, de manière toute bête, des gens qui ont de l'empathie, des gens qui souffrent quand d'autres souffrent, et des gens qui ne le font pas. Ça, c'est quelque chose
qu'on
ne peut pas nier.
Mais finalement, quand tu vas aider des gens parce que tu as une empathie envers eux, d'une certaine façon, tu te fais plaisir.
Oui, mais alors là, je crois qu'il faut dire, eh ben, tant mieux. Je crois qu'il
faut dire
tant mieux.
Mais c'est exactement.
Mais non, parce que Clamence, c'est différent. Parce que Clamence ne va pas jusqu'au bout des choses, et surtout que Clamence exploite les autres.
Parce qu'il le dit.
Ah ben parce que par exemple quand il défend un accusé, ben il voit bien que la personne qui a commis un crime, par exemple, il y a toujours cet humour de Camus, l'humour de Camus qui dit s'il a commis un crime, ben quelque part c'est pour avoir sa petite part de gloire, pour qu'on parle de lui. Alors mais le problème c'est qu'on va parler de lui 2 jours, 3 jours, mais au bout d'un mois c'est fini. Il y a trop de gens qui assassinent leur concierge et d'ailleurs toujours avec l'humour de Camus, il dit est-ce que les concierges ne l'ont pas mérité. Donc ça c'est bon.
Je vais vous lire l'extrait d'ailleurs.
Mais j'avais pas fini. Donc.
Bon, quelques-uns de mes bons criminels avait d'ailleurs, en tuant, obéi au même sentiment. Alors le sentiment dont il parle, c'est le fait de dominer. Parce que lui, ce qu'il aime,
c'est
dominer, être au-dessus des autres.
Est-ce que tu peux juste nous dire où est
C'est dans le chapitre 2.
Chapitre 2, d'accord.
Oui. Et donc son souhait, c'est d'avoir une bonne estime de lui.
Voilà.
S'estimer supérieur aux autres.
Oui.
Mais encore une fois, je suis d'accord avec ça, mais est-ce que c'est pas... Ce vers quoi tout le monde tend, avoir une bonne estime de soi.
Bien sûr, mais c'est peut-être là le problème. Donc, justement, quelques-uns de mes bons criminels avaient d'ailleurs, en tuant, obéi au même sentiment. La lecture des journaux, dans la triste situation où ils se trouvaient, leur apportait sans doute une sorte de compensation malheureuse. Comme beaucoup d'hommes, ils n'en pouvaient plus de l'anonymat. Et cette impatience avait pu, en partie, les mener à de fâcheuses extrémités. Pour être connu, il suffit en somme de tuer sa concierge. Malheureusement, il s'agit d'une réputation éphémère, tant il y a de concierges qui méritent et reçoivent le couteau. Le crime tient sans trêve le devant de la scène, mais le criminel n'y figure que fugitivement, pour être aussitôt remplacé. Ces brefs triomphes, enfin, se paient trop cher. Défendre nos malheureux aspirants à la réputation revenait au contraire à être vraiment reconnu. Dans le même temps et aux mêmes places, mais par des moyens plus économiques. Cela m'encourageait aussi à déployer de méritoires efforts pour qu'ils payassent le moins possible. Ce qu'ils payaient, ils le payaient un peu à ma place. L'indignation, le talent, l'émotion que je dépensais m'enlevaient en revanche toute dette à leur égard. Les juges punissaient, les accusés expiaient, et moi, libre de tout devoir, soustrait au jugement... Comme à la sanction, je régnais librement dans une lumière édénique. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce passage.
Mmh, oui.
Beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, on voit déjà 50 ans à l'avance l'heure de gloire sur YouTube ou Dailymotion ou Twitter. Hein. C'est cette envie... que tout le monde a de sortir l'anonymat.
Le quart d'heure warholien.
Exact, c'est ça, oui. Et donc, ça renvoie à une pensée de Pascal, la pensée 492 dans l'édition de Brunswick. Donc, Pascal dit « Qui ne hait en soi son amour propre, et cet instinct qui le porte à se faire Dieu est bien aveuglé. Qui ne voit que rien n'est si opposé à justice et la vérité, car il est faux que nous méritions tout cela. » Et il est injuste et impossible d'y arriver, puisque tous demandent la même chose. C'est donc une manifeste injustice où nous sommes nés, dont nous ne pouvons nous défaire et dont il faut nous défaire. Donc le problème, c'est que la béatitude, l'état de béatitude de Clémence, eh bien, il est jalousé. Et là, on arrive à un problème qu'a mis en avant l'anthropologue René Girard dans toute son œuvre, le problème du mimétisme. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un qui est dans une situation qui lui offre ou qui semble lui offrir un surcroît d'être, eh bien, on désire la même chose, on désire la même situation. Et du coup, ça vient rapidement à la foire d'empoigne s'il n'y a pas au sein de la société des restrictions qui font que chacun reste à sa place et chacun peut agir dans un cadre limité. C'est tout l'enjeu de la coutume, tel que l'explique Montaigne ou Pascal.
Ce qui m'a paru intéressant, c'est quand tu dis le surcroît d'être. S'il y a besoin d'un surcroît d'être, c'est que quelque part, il y a un défaut d'être. Et donc, l'absurde de Camus ou l'expression de nihilisme, on peut l'entendre par ce défaut d'être. Quand il dit « je n'en pouvais plus de l'anonymat », finalement, c'est peut-être quelque chose propre au temps moderne. Et,
c'est propre au temps moderne parce qu'on est en concurrence avec un grand nombre de gens.
Oui.
En fait, l'idée de Girard, c'est qu'on désire ce que quelqu'un d'autre, qui est appelé médiateur, désire. Mais ce désir donc, peut être fantasmé, c'est-à-dire qu'il ne peut avoir aucune conséquence si le médiateur est loin, si on n'est pas en concurrence directe avec lui. S'il existe une grande différence sociale avec lui, s'il existe une grande distance dans le temps ou dans l'espace, on n'entre pas en concurrence avec lui, et donc il ne se passe rien. Donc si chacun est cloisonné dans sa chambre, comme dit Pascal, c'est-à-dire à sa place sociale, eh bien, il n'y a pas de concurrence. Et donc, l'organisation sociale permet d'éviter des conflits. Par contre, si dans une société libérée, on peut se permettre d'entrer en concurrence avec tout le monde parce que tout le monde devient proche, du coup, celui qui est médiateur du désir peut être pris par celui qui est médié, c'est-à-dire celui qui se met à désirer. Du coup, il jalouse le médiateur, et le médiateur, pour le médiateur, l'autre devient son propre médiateur. On a un conflit mimétique. Alors, avant de repartir là-dedans, nous allons envoyer un extrait de Don Giovanni de Mozart.
Radio des Régions, RCF.
Alors, pour on commence à voir poindre, même si Camus n'en parle pas textuellement dans les premiers chapitres, il y aura une occurrence quand même. Il y aura le mot imitation qui va faire son apparition dans le tout dernier chapitre. On a commencé donc à parler du mimétisme. Et pour aller plus loin dans cette notion-là, je voudrais retourner non pas à la Grèce de l'ombre, si chère à Camus, mais à l'Amérique de l'ombre, le mythe de la création du soleil et de la lune chez les Aztèques. Alors je vous lis la version qui est retranscrite en français par Georges Bataille et citée par René Girard. « On dit qu'avant que le jour existât, les dieux se réunirent en un lieu appelé Teotihuacan, et qu'ils se dirent les uns aux autres, qui sera chargé d'éclairer le monde ? À quoi un dieu appelé Tecuzitztecalt répondit « C'est moi qui me charge de l'éclairer ». Les dieux parlèrent pour la seconde fois et dirent « Quel autre encore ?» Ils se regardèrent ensuite les uns les autres en cherchant quel serait celui-là. Et aucun d'eux n'osait s'offrir à remplir cet emploi. Tous craignaient et s'en excusaient. L'un d'eux, dont on ne tenait pas compte et qui avait des bubas, c'est-à-dire des pustules, ne parlait pas et écoutait le dire des autres. Ceux-ci lui adressèrent donc la parole en disant « Que ce soit toi, petit bubozo !» Il obéit volontiers à ce qu'on lui commandait et répondit « Je reçois votre ordre comme une grâce, qu'il en soit ainsi. » Les deux élus commencèrent aussitôt une pénitence de 4 jours. Minuit étant venu, tous les dieux se rangèrent autour du foyer, où le feu brûla 4 jours. Ils se partagèrent en 2 files et se placèrent séparément des 2 côtés du feu. Les 2 élus vinrent prendre place autour du foyer, la figure tournée vers le feu entre les 2 rangées de dieux qui se tenaient debout et qui, s'adressant à Tecuzitztecalt, lui dirent « Allons, Tecuzitztecalt, jette-toi dans le feu ». Celui-ci essaya de s'y lancer, mais comme le foyer était grand et ardent, il fut pris de peur et, sentant cette grande chaleur, recula. Une seconde fois, il prit son courage à 2 mains et voulut se jeter dans le foyer. Mais quand il s'en fut rapproché, il s'arrêta et n'osa plus. Il en fit vainement la tentative à 4 reprises différentes, or il avait été ordonné que personne ne pouvait s'y essayer plus de 4 fois. Lors donc que les 4 épreuves furent faites, les dieux s'adressèrent à Bubozo et lui dirent « Allons, essaie à ton tour ». À peine lui eut-on dit ces paroles qu'il rassembla ses forces, ferma les yeux, s'élança et se jeta dans le feu. Il commença aussitôt à crépiter comme le fait un objet qui rôtit. Tecuzitztecalt, voyant qu'il s'était jeté au foyer et qu'il y brûlait, prit aussitôt son élan et se précipita dans le brasier. Un peu après, les dieux tombés à genoux, virent Bubozo, devenu le soleil, se lever à l'orient. Il apparut très rouge, se dandinant d'un côté de l'autre, et personne ne pouvait fixer sur lui ses regards parce qu'il les aveuglait, tant il resplendissait avec les rayons qui s'en échappaient et qui se répandirent de toutes parts. À son tour, la lune s'éleva sur l'horizon. Pour avoir hésité, Tecuzitztecalt eut moins d'éclat.
C'est très beau.
C'est très beau.
Poétique.
Poétique, glaçant aussi, hein, parce que bon.
Pourtant, il fait chaud là.
Il fait chaud, oui. Non, bah, après, évidemment, ce rite a été réactualisé quotidiennement par des sacrifices humains pour faire lever le soleil. Hein. Il faut pas oublier les Aztèques, ouais, c'était ça.
Oui.
Alors, comment est-ce qu'on peut faire un lien avec ce qui se passe à Paris dans les années 50 ?
Ça paraît difficile a priori, puisque Paris des années 50 ou Amsterdam semble être déserté des dieux.
Mais là, en fait, il n'y a pas tellement de dieux. Il y a des gens qui sont sacrifiés, finalement. Les dieux meurent, ce n'est pas des vrais dieux. Enfin bon, ils redeviennent soleil après. Mais...
Bah oui, c'est-à-dire que l'apothéose, c'est ça.
Mais si tu fais l'hypothèse avec les penseurs de grecs tardifs que les dieux sont des hommes, et donc ils pourraient s'identifier très facilement aux Parisiens des années 50, ou mieux encore de ceux d'aujourd'hui, où est-ce qu'on peut voir du mimétisme et même un mimétisme exacerbé, exaspéré? Quelle est la prétention de l'homme moderne? La grande prétention de l'homme moderne?
Bah, en tout cas, dans la chose qu'on a lue... Il veut se faire Dieu, ce que je comprends bien. Dans ce que tu as lu, à un moment, il dit, moi, c'est ça qui m'a surpris, il parlait de se faire Dieu. Et si, sans m'étendre, hein, page 87, Clamence dit, hein, et moi, ça m'a fait penser à Nietzsche, il parle de sa débauche. Il dit « Désespérant de l'amour et de la chasteté, je m'avisais enfin qu'il restait la débauche qui remplace très bien l'amour. » Et il dit « Dans un sens, j'avais toujours vécu dans la débauche, n'ayant jamais cessé de vouloir être immortel. » Donc il me semble que l'homme moderne...
Rêve à l'immortalité.
Bah oui, rêve à l'immortalité.
Et avant cela, on le voit à la fin du texte que j'ai cité. Hein, « L'indignation, le talent, l'émotion que je dépensais m'enlevaient en revanche toute dette à leur égard. » Les juges punissaient, les accusés expiaient, et moi, libre de tout devoir, soustrait au jugement comme à la sanction, je régnais.
Donc c'est se soustraire au devoir.
Ben c'est la liberté. L'homme veut être libre, l'homme moderne veut être libre de toute contrainte, ni Dieu ni maître.
Alors et donc, oui et non, Camus il dit bien un peu plus loin, enfin Clamence, hein, que la liberté finalement c'est pas un cadeau.
Ah
quoi.
Oui, mais ça c'est à la fin de la réflexion.
Mais donc du coup...
Mais justement, alors finalement, être libre, qu'est-ce que ça voudrait dire? Si libre c'est être libre de toute contrainte, c'est quelque part qu'on affirme qu'on n'est pas mimétique, n'est-ce pas? que nous, on ne suit pas bêtement un modèle tout fait, qu'on est notre propre modèle. Bah, c'est l'exaspération du métisme.
Je ne sais pas, quand on lit Rousseau, quand on lit du contrat social, il dit bien qu'être libre, ce n'est absolument pas être libre de toute contrainte.
Ah oui, bien sûr, évidemment. Mais ça, c'est, bon, j'allais dire un philosophe. On n'en sera pas le débat ici.
Oui,
ouais. Mais finalement, Tecustis Zacalt, là, quand il se dit, quand il se propose pour être le soleil, quelque part, il a été désigné par personne, il se propose de lui-même, il est volontaire. Donc quelque part, il se veut l'être sans modèle qui est le modèle pour les autres. C'est ce que veut être Camence. Et alors que le deuxième dieu, lui, est désigné. Bubozo, lui, le petit Bubozo, celui qui a des pustules de peste ou d'une maladie infectieuse quelconque, il est désigné. Et alors, au moment de passer à l'acte, finalement, qu'est-ce qu'il arrive à Tetuxi Lacalte, là ? Qu'est-ce qu'il fait ?
Il imite.
Il
imite, c'est celui qui imite.
Non, c'est celui qui prétend n'imiter personne.
Oui, mais Hercule, il ne fait pas, lui.
Eh oui, il n'arrive pas à sauter dans le feu parce qu'il est plus mimétique que tous les autres en se prétendant sans modèle. Mais comme il est sans modèle, il n'arrive pas à faire le geste. Par contre, Bubozo, lui, qui a reçu un ordre, qui agit sur, selon l'autorité de quelqu'un d'autre, lui, il arrive à le faire. Et l'ayant fait immédiatement, il est le modèle qui manquait à Tetuxtitlacalte, qui aussitôt l'imite et se jette à son tour dans le feu. Et on peut penser que Tetuxtitlacalte qui ne se jette pas dans le feu, ça peut faire penser à quelqu'un d'autre qui ne se jette pas à l'eau, qui prétend être un modèle pour les autres, mais qui, au moment d'agir, finalement, privé de modèle, livré à lui-même, est incapable d'agir au moment où il faut.
Donc cette épreuve-là révèle le vrai, quoi, en fait. C'est une épreuve révélatrice. Le moment où il doit sauver la femme, c'est là où le sol ferme n'est plus si ferme et tout se dérobe sous les pieds.
Il a la liberté de le faire ou pas, en fait.
C'est là qu'il se révèle et qu'il se rend compte, peut-être, encore qu'il a une capacité d'oubli, hein, ça fait partie de sa liberté de l'ordre de gloire, il oublie très vite. Et en fait, il va oublier cet instant pendant très longtemps, il va falloir tout un processus pour qu'il s'en rappelle. Eh bien, ça va lui montrer qu'en fait, il n'est pas le modèle qu'il espère être pour lui-même et pour les autres. Voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et nous allons continuer sur la chute lors de prochaines émissions. Au revoir.
Merci.
Au revoir.